Et on se retrouve cet après-midi sur les ondes de Radio Campus Tours. On est vendredi et c'est Tsigalco United, le rendez-vous mensuel foot, histoire, culture, épopée et paillettes. Et ça tombe bien que ce terme d'épopée soit présent dans le sous-titre de l'émission, car on va parler d'une épopée, peut-être la plus grande et la plus fameuse des épopées de l'histoire du foot français, avec l'épopée des Verts. Et oui, on essaye de coller aussi à la thématique 99.green. L'épopée des grands verts, ceux de Saint-Étienne. Une épopée en vert pour coller à la semaine thématique sur Radio Campus Tours. Un clin d'œil aussi, car oui, il ne s'agira pas d'un sujet sur la transition écologique et l'environnement, mais tout de même, ce vert est la couleur indissociable de l'AS Saint-Étienne en France. Alors qu'on soit nostalgique ou pas, romantique ou pas, Saint-Étienne, le chaudron, la finale de Glasgow, les poteaux carrés, Kurkovic, Larquet, Rocheteau, Herbin, le maillot Manu France, c'est culte, ça réveille toujours plein de souvenirs et ça raconte une époque du football français. Peut-être même, et c'est un peu capillotracté, mais allez, disons-le, que de l'épopée des Verts découle tout le reste. La génération Platini, les finales des clubs français en Coupe d'Europe, France 98, et une autre façon pour les Français de voir leur football. Ce soir, on revient donc sur l'épopée des Verts, ou quand la France entière se met au vert.
Tsigalco United. Le premier mercredi du mois, à 20h30 sur Radio Campus Tours. Football, histoire, épopée et paillettes.
Ce soir, on parle donc des Verts, ceux de Saint-Étienne. Alors que l'AS Saint-Étienne vient de redescendre en Ligue 2 à l'issue de cette saison 2024-2025 et que les Stéphanois n'ont plus remporté le moindre titre depuis 2013 et une victoire en Coupe de la Ligue, et que le dernier titre de champion de France, lui, date de 1981, eh bien pourtant, régulièrement, dans les sondages qui sont faits sur les clubs les plus supportés en France, Saint-Étienne apparaît encore dans le top 5. Comment alors expliquer qu'un club qui ne gagne plus et connaît depuis quelques saisons l'ascenseur entre Ligue 1 et Ligue 2 soit toujours assez largement soutenu en France? Mieux que ça. À partir du moment où l'on suit un tantinet le foot français, on sait tout de suite que derrière le surnom simple des Verts se cache l'AS Saint-Étienne. Une couleur comme un porte-étendard, emblématique et associée au club du Forez. Pour comprendre la popularité des Verts, il faut remonter plus loin dans l'histoire du foot français. On va, comme à chaque fois dans cette émission, resituer le contexte, aussi bien géographique, historique et culturel. Alors Saint-Étienne, c'est une cité industrielle nichée dans le Forez, massif montagneux et forestier, entre le Massif central et la région lyonnaise. C'est une ville industrielle, minière et ouvrière, et donc, si l'on prend l'histoire du 19e siècle, une ville marquée par les mouvements ouvriers et l'immigration, polonaise, italienne, espagnole et marocaine. Une ville marquée aussi par l'essor d'un nouveau modèle économique dans l'alimentaire et l'épicerie, la grande distribution. Au début du 20e siècle, dans les locaux d'un ancien opéra, le Casino Lyrique. Le commerçant à l'origine de ce commerce s'appelle Geoffroy Guichard. Et il est le père du groupe de distribution alimentaire qui va prendre le nom du lieu d'établissement de son premier magasin, Casino. Geoffroy Guichard, évidemment, si vous aimez le foot, vous savez que c'est le nom du stade de l'AS Saint-Étienne. C'est que ce personnage est directement lié à l'essor du club de foot de la ville. C'est assez courant dans le foot du début du XXe siècle, des capitaines d'industrie ou des commerçants qui se lancent dans l'aventure sportive en créant des clubs de foot ou de rugby. Alors, ils ne le font pas par pure philanthropie, même si ça compte un peu, évidemment. Ils le font surtout dans une optique parfois d'ordre moral. Reprendre le contrôle des corps, avoir une activité physique saine, qui peut même aller jusqu'à cette idée que des corps sains, ce sont aussi des corps mieux préparés pour faire la guerre. Et puis, si on se place du point de vue patronal et d'un point de vue de la domination bourgeoise, eh bien, on encadre comme ça les temps libres par le sport et on évite les rassemblements où on parle politique et où on se syndique, où on boit et où on peut potentiellement menacer un ordre établi. Geoffroy Guichard est de cette génération d'entrepreneurs qui mise sur le foot et il crée en 1912 l'Amicale des employés de la Société des magasins Casino, qui deviendra plus tard, en s'émancipant de la tutelle de l'enseigne, l'AS Saint-Étienne. Toutefois, on gardera la couleur verte, couleur de l'enseigne des magasins Casino, comme couleur pour les maillots de l'ASSE. Casino ne sera jamais très loin non plus du club, puisque dans les années 90, l'enseigne figurait sur les maillots en sponsor principal. Quant à Geoffroy Guichard, il cède à l'AS Saint-Étienne un terrain en 1930 pour la construction d'un stade de foot. Il s'agit d'un terrain qu'il a acheté à la famille Debreuil et qui servait de dépôt de détritus. Le stade prend le nom de Geoffroy Guichard et le porte toujours aujourd'hui. Alors sportivement, l'AS Saint-Étienne est un club qui décolle dans les années 50. Sous la houlette de Jean Snella, ancien joueur du club devenu entraîneur, le club stéphanois s'installe durablement en première division et mise sur la formation. Quand on dit ça, on se dit que c'est assez bateau comme principe, mais en réalité, dans le football de l'époque, c'est assez innovant. La professionnalisation du foot engage très rapidement les clubs dans la chasse aux meilleurs joueurs. Le fait qu'un club décide de se projeter dans la formation et aussi dans le ciblage des futurs jeunes recrues, c'est innovant. Pour aider Jean Snella dans la formation, le club missionne Pierre Garonner, ancien joueur lui aussi, et Pierre Garonner parcourt alors la France à la recherche de jeunes talents. Il fera venir à Saint-Étienne Jean-Michel Larquet, Robert Herbin, Gérard Janvion ou Georges Beretta. En 1961, la famille Guichard fait appel à Roger Rocher pour présider le club. Roger Rocher est un ancien mineur qui a réussi à s'extraire de sa condition pour devenir entrepreneur dans le BTP et en même temps président d'un club de foot local qui l'a fait grandir. Le côté polyvalent, à la fois entrepreneur et meneur d'hommes au sein d'un club sportif, plaît à la famille Guichard qui intronise en quelque sorte Roger Rocher comme président de l'AS Saint-Étienne. C'est sous la présidence de Rocher que Saint-Étienne va devenir les Verts et va connaître la gloire et on le verra aussi, la chute. Roger Rocher, c'est aussi un style, costume-cravate impeccable et une pipe au bec ou à la main qui sera indissociable de son personnage fort, autoritaire même, et qui gère le club de façon très verticale, non sans réussite. Saint-Étienne démarre l'ère Roger Rocher par un titre de champion de deuxième division en 1963, puis à la surprise générale par le titre de champion de France de D1 en 64. Un titre glané alors que les grands clubs d'alors, Reims, le Racing Club de France et Nice, se cassent la figure. Saint-Étienne n'empile pas les titres tout de suite, et après ce titre, le club rentre un peu dans le rang. Rocher nomme Albert Batteux entraîneur. Batteux, c'est l'entraîneur du Grand Reims, et un entraîneur avec des principes de jeu, et ça marche. Saint-Étienne réalise le doublé Coupe Championnat en 68. La star de l'équipe, c'est l'attaquant Rachid Mekloufi. Rachid Mekloufi est un petit attaquant, 1m68, rapide, avec un grand sens du but, qui marque pas loin de 150 buts avec le maillot des Verts entre 1954 et 1968. Ça, c'est pour le côté vert de la pelouse, un attaquant hors pair. Car il y a aussi le vert du drapeau algérien. Né à Sétif en 1936, Mekloufi est alors un Français musulman, un indigène. Il dispute au début des années 50 4 matchs sous le maillot de l'équipe de France. À cette époque, l'Algérie est un département français. Or, en 58, en compagnie de 2 autres joueurs du championnat de France, Mokhtar Haribi du RC Lens et Abdelhamid Kermali de Lyon, il rejoint la Suisse pour disputer avec l'embryon d'équipe nationale d'Algérie, qu'on appelle l'équipe du FLN, une tournée mondiale destinée à faire la promotion de la cause indépendantiste algérienne. Cela lui vaut une suspension des instances du foot français, mais une grande notoriété dans tous les pays du tiers-monde. Après l'indépendance algérienne, Mekloufi retourne jouer à Saint-Étienne, où il participe donc activement au succès du club et dont il devient une des premières grandes stars. Saint-É, comme on dit alors, enchaîne avec un triplé, en remportant les championnats de France de 69 et 70, devenant le premier club français à réaliser ce triplé. Par la même occasion, le club dispute ses premiers matchs de Coupe d'Europe, même si pour le moment, la présence européenne des Verts est plutôt discrète. À la fin des années 60, l'autre star de l'équipe est un attaquant africain, le Malien Salif Keita. Je pointe ici le talent de Keita car il faut voir et revoir les actions et buts que vous trouverez sur internet de Salif Keita. Attaquant élancé, technique et rapide, Keita avait déjà, dès la fin des années 60, toutes les qualités d'un attaquant d'aujourd'hui. Salif Keita fera d'ailleurs une belle carrière ensuite au FC Valence espagnol puis au Sporting Portugal. Saint-Étienne, en cette fin des années 60, éclipse donc le Grand Reims sur la scène nationale et joue la bagarre en tête du championnat et dans les coupes nationales avec l'OM, Bordeaux et le FC Nantes, qui deviendra une sorte de rival classique des années 70. Alors qu'arrive justement la décennie 70, Marseille reprend du poil de la bête, avec le président Leclerc qui lui aussi dépense sans compter du côté de la Canebière, et arrache notamment à Saint-Té le gardien international Georges Carnu et le défenseur Bernard Bosquier. Albert Batteux, lassé de l'omniprésence du président Rocher et pressentant peut-être la fin de cycle, s'en va. Rocher nomme l'ancien joueur du club Robert Herbin comme entraîneur. Une stratégie maison qui va s'avérer décisive. Robert Herbin était un joueur défensif, travailleur et sérieux. C'est avec le même sérieux, certains diront le même flegme, que Herbin, tignasse frisée rousse sur la tête, prend en main l'équipe. Il devient alors le sphinx, car réputé distant, calme et ne correspondant pas à l'image de l'entraîneur gouailleur qui s'agite sur le banc de touche. Herbin a un plan et une méthode. Elle va faire mouche. Herbin s'appuie sur des joueurs formés au club, nouvellement arrivés ou déjà là depuis quelques saisons, mais auxquels Herbin va filer les clés de la maison verte. Jean-Michel Larquet, le meneur de jeu et capitaine, les défenseurs Gérard Farizon et Christian Lopez, les frères Hervé et Patrick Revelli, deux frères attaquants formés au club. Et puis Rocheteau, Kurkovic et Piazza, mais ça, on en parle après une première pause musicale. On lâche les frères Revelli pour les frères Tavares, originaires du Cap-Vert mais établis sur la côte est des États-Unis. Ils enregistrent en 1976 le titre « Even must be missing an angel » et ça tombe bien car on va parler d'un certain ange vert après cette pause musicale venue du fond des années 70, venue des années en vert, et on se retrouve pour la suite de Tsigalco United juste après. Tavares, Even Must Be Missing an Angel sur Radio Campus Tour, c'est Sigalco United, le rendez-vous mensuel foot, histoire, culture et épopée. Une émission spéciale sur les Verts, ceux de Saint-Étienne, les seuls et uniques. Dans la première partie, on a vu ensemble comment avait grandi ce club et les bases de ce qui va nous intéresser maintenant, à savoir les grands Verts, l'épopée des Verts. On est dans les années 70. Et on s'est arrêté là-dessus. La France va découvrir à Saint-Étienne un minot, un jeune joueur, un attaquant, Dominique Rocheteau. Alors, à chaque décennie, sa coqueluche en phase avec son époque. Mbappé est le joueur des années 2020, Benzema a été celui des années 2010, Rocheteau est le jeune joueur des années 70, cheveux longs et frisés, un côté fleur bleue très post-68art et un goût pour le cinéma et la musique. Dominique Rocheteau débute en 1973 sous le maillot des Verts et va vite devenir la coqueluche des supporters, de la presse et du foot français. Il va surtout devenir l'Ange Vert, un surnom incroyable, passé à la postérité et lié à sa vitesse, son style tout en débordement et ses cheveux au vent. En plus de Rocheteau, pour compléter l'équipe mythique qui va dominer le foot français des années 70, deux joueurs étrangers. Ivan Kurković, un gardien de but yougoslave né à Mostar dans l'actuelle Bosnie. Alors Ivan Kurković, il signe à Saint-Étienne en 73, il a déjà une trentaine d'années. À l'époque, les joueurs des pays du bloc de l'Est, du bloc socialiste, ne peuvent pas venir jouer à l'Est, c'est extrêmement rare. Les Yougoslaves, eux, particularisme, sont autorisés. Le régime de Tito est en dehors du pacte de Varsovie et pratique un autre socialisme, mais tout de même, les sportifs de haut niveau yougoslaves doivent avoir 30 ans pour partir à l'Ouest. Ivan Kurković, donc, gardien international yougoslave, qui part à Saint-Étienne et acquiert dans le Forez et en France une grande réputation. Une réputation telle qu'elle va conduire à ce lieu commun, en quelque sorte, du foot français, qui fait que les gardiens de but yougoslaves sont reconnus comme étant très bons, et d'autres vont emboîter le pas plus tard à Kurković, comme Pantelić à Bordeaux, ou plus près de nous, le gardien croate Rounier à Marseille puis à Lens, ou même Subasic à Monaco. Autre joueur étranger, Osvaldo Piazza, qui va vite devenir aussi très populaire parmi les supporters. Piazza est un solide stopper argentin, formé au Club Atlético Lanús, international, et qui va impressionner par son autorité, sa musculature et son sens du jeu. Articulé donc autour de l'Arqué, avec Kurković, Piazza, mais aussi Lopez, Janvion, Rocheteau, les frères Revelli, Saint-Étienne part en moisson. Au niveau national, la décennie 70 est la décennie stéphanoise. Saint-Étienne remporte le championnat en 1970, 74, 75 et 76. Saint-Étienne gagne aussi les Coupes de France 70, 74 et 1975. Le grand rival alors est Nantes, emmené par Henri Michel, ou l'OM de Jairzinho et Paulo César. Mais pour coller à la thématique épopée de l'émission, c'est au niveau européen que Saint-Étienne se fait un nom. Alors que la France a vu les Coupes du Monde de 70 et 74 à la télé, que le foot français est passé à côté de Pelé, Charlton, Rivera et Cruyff, Saint-Étienne ramène le football français au haut niveau européen. Lors de la saison 74-75, tenant du titre en championnat, l'AS Saint-Étienne est le représentant français de la Coupe d'Europe des clubs champions, comme on appelle alors la Ligue des champions. Une coupe de costaud. Contrairement à ce que peuvent dire certaines mauvaises langues, il s'agissait d'une coupe à élimination directe, après des matchs en aller-retour, et qui opposait uniquement les clubs champions de tous les pays membres de l'UEFA. Sur le papier, ça donne l'impression d'un parcours pas trop long jusqu'à la finale, mais dans les faits, ce sont beaucoup de matchs de costaud et qui font la part belle au club taillé pour les matchs couperés. Ça tombe bien, car à ce petit jeu-là, les Verts de Saint-Étienne vont s'avérer redoutables. En 74, Saint-Étienne hérite au premier tour du Sporting Portugal. Un gros morceau d'entrée de jeu. Le Sporting est alors emmené par un attaquant argentin aux stats assez affolantes, Héctor Yasalde. Ce dernier rejoindra d'ailleurs l'OM la saison suivante. Le match aller, joué au mois de septembre à Geoffroy Guichard, voit les Verts l'emporter 2-0 au terme d'un match assez houleux avec un pénalty de Georges Beretta marqué en deuxième mi-temps pour délivrer les Verts. Au match retour, les Verts, qui cette fois-ci jouent en rouge, et oui, le Sporting Portugal joue en vert et blanc, assurent le nul un partout. En huitième de finale, les Verts héritent de l'Hajduk Split, un grand club croate sur la côte d'Almaty et champion aussi de Yougoslavie. Un club de costaud, de très très costaud. La quasi-totalité des 11 titulaires sont internationaux yougoslaves. On est avant l'arrêt Bosman, et oui. Ivan Buljan commande la défense, Ivica Surjac brille au milieu de terrain, et devant, Jarkovic enfile les buts. L'équipe est entraînée par Ivica Olic, grand technicien du foot yougoslave. Le 23 octobre, à Split, l'AS Saint-Etienne est corrigé. 4-1, victoire nette des Blancs de l'Hajduk Split contre les Verts. Cependant, malgré la déroute, les Verts, les joueurs, sont motivés. L'arbitrage a été plutôt médiocre au match aller, et on se dit du côté de l'AS Saint-Etienne que le score ne reflète pas la vraie physionomie du match. Alors au match retour, le 6 novembre 1974, c'est une équipe de Saint-Etienne gonflée à bloc qui retrouve les Croates de Split. Aidé par un public survolté, qui va donner au stade son surnom de Chaudron, les Verts passent 5 buts à l'Hajduk Split, la remontada avant l'heure et à son avantage. Le scénario est fou. L'arqué ouvre le score d'une frappe limpide sous la barre avant la mi-temps. 1-0 Saint-Etienne. Puis le match patine un peu. Pire, à l'heure de jeu, Hajduk Split égalise. Un partout, et désormais le score total est de 5-2 pour Hajduk Split. Et Saint-Etienne doit donc marquer 4 buts pour se qualifier. Sur le coup d'envoi, les Verts foncent touchous et Dominique Battenet marque de la tête. 2-1 Saint-Etienne. Quelques minutes plus tard, Sinaegel tombe dans la surface. Pénalty transformé par Beretta. 3-1 Saint-Etienne. Les joueurs yougoslaves ont désormais la tête sous l'eau et sombrent psychologiquement et physiquement. Il reste 10 minutes à jouer. À 3-1 pour Saint-Etienne, Hajduk Split est encore qualifié. Les joueurs yougoslaves essaient de gagner du temps. Pourtant, à la 82e minute, l'attaquant remplaçant, Yves Triantafilos, envoie le ballon au fond des filets de Meskovic, le gardien yougoslave, sur une passe de Patrick Revelli. 4-1 Saint-Etienne est désormais égalité parfaite sur l'ensemble des deux matchs. Hajduk Split vient de laisser passer sa chance et on voit mal comment les Verts, irrésistibles durant le match, peuvent laisser passer leur chance. Les prolongations sont un calvaire pour Hajduk Split qui n'a plus de ressources. À la 104e minute, une frappe lourde de Triantafilos après un coup franc joué avec Beretta offre la qualif à Saint-Etienne. Victoire 5-1 et qualification pour les quarts de finale. Surtout, Saint-Etienne vient de réussir un exploit incroyable, une remontada comme on a dit, contre un adversaire coriace et talentueux. Mieux encore, les Verts deviennent ce soir-là le chouchou du foot français, le chouchou de nombreux supporters et lancent ce qui va devenir l'épopée des Verts, une folie douce qui va contaminer toute la France et dont on parlera dans la troisième partie de l'émission. Le lendemain de cette victoire, le journal L'Équipe titrera « Saint-Etienne, c'était l'Ajax », citant l'entraîneur et ancien sélectionneur Stéphane Kovacs. En quart de finale, Saint-Etienne élimine les Polonais de Ruszczorzo, champion de Pologne, et comme pour Hajduk Split, le club compte de très nombreux internationaux polonais, une valeur sûre du foot européen d'alors. Le match aller est bien compliqué et Saint-Etienne s'emploie pour marquer 2 buts alors que Chorzo en a marqué 3. Défaite en Pologne 3-2, une belle frayeur, mais encore ce côté « on ne lâche rien des Verts » qui séduit le public français. Au match retour, le 19 mars 1975, il a neigé fort sur le Forez et le club mobilise tous ses employés pour déblayer la pelouse de Geoffroy Guichard. C'est ça aussi les épopées de l'époque, des conditions météo parfois dantesques. C'est Gérard Janvion qui délivre les Verts sur un ballon relâché par le gardien polonais après un coup franc du capitaine Larquet. Saint-Etienne est qualifié pour les demi-finales de la Coupe d'Europe des clubs champions et affronte le Bayern Munich. En 1974, le Bayern Munich, c'est 7 meilleurs dans les buts, Beckenbauer et Schwarzenberg en défense, Rummenigge, Hoeneß et Gerd Müller devant, autant vous dire que ça ne blague pas. Là, après un match nul 0-0 à Saint-Etienne, les Verts montrent leurs limites et s'inclinent 0-2 à Munich. Le Bayern file en finale, une finale qui se joue à Paris, au Parc des Princes, et où les Allemands l'emportent 2-0 face aux Anglais de Leeds United. Qu'à cela ne tienne, fort de son expérience de la saison précédente, l'AS Saint-Etienne démarre la saison 1975 avec de grandes ambitions. Au niveau national déjà, avec un nouveau titre de champion de France, et au niveau européen. Lors de la Coupe d'Europe des clubs champions 76, Saint-Etienne élimine d'abord le KB Copenhague, ancêtre du FC Copenhague, avec 2 victoires, 2-0 puis 3-1. En huitième de finale, Saint-Etienne passe à la mode écossaise et élimine les Rangers de Glasgow, Victoire 2-0 et 2-1 avec un Dominique Rocheteau buteur à Glasgow et qui, lors de cette saison 75-76, prend véritablement toute la lumière. En quart de finale, le sublime arrive et l'épopée aussi. Saint-Étienne hérite d'un tirage très difficile. Le Dynamo Kiev, ogre du football soviétique. Le 11 titulaire tout entier est composé de joueurs internationaux, dont l'attaquant vedette, Oleg Blokhin. Blokhin, ballon d'or en 75, est une sorte de Cristiano Ronaldo avant l'heure, athlète impeccable qui court le 100 mètres en 10 secondes 7, et aussi technique et a le dribble court. Le match aller se joue à Simferopol, en Crimée. À l'époque, le pouvoir soviétique décide de manière très arbitraire du lieu des rencontres quand des équipes venues de l'Ouest viennent en terre communiste. On est début mars et les terrains sont enneigés à Kiev, mais à Simferopol, plus au sud, le terrain l'est également, et c'est un véritable bourbier qui accueille les Stéphanois, arrivés dans un avion Tupolev en terre soviétique. Le Dynamo Kiev a remporté la Coupe des Coupes en 75 et fait figure à domicile de favori. Le résultat du match est sans appel, victoire nette 2-0 du Dynamo Kiev et prestation très médiocre de Saint-Étienne. La presse trouve des excuses, les joueurs étaient frigorifiés et fatigués par le long voyage en URSS. Côté vert, c'est la remise des pendules à l'heure entre les dirigeants, Herbin et les joueurs, dont le capitaine Larquet, pointé du doigt pour sa piètre prestation en Ukraine. Le match retour a lieu le 17 mars 76 dans un stade Geoffroy Guichard des grands soirs. Saint-Étienne doit rattraper son retard et, comme l'année d'avant contre Hajduk Split, les Verts doivent passer le bleu de chauffe et sortir un très grand match. Devant plus de 40 000 supporters, les Verts livrent alors un de leurs plus beaux matchs européens. À l'heure de jeu, sur un contre fulgurant, alors que le score est de 0 partout, Blokhin fonce à toute vitesse vers le but de Kurkovic. L'attaquant ukrainien est gourmand, un peu trop, et tente un improbable dribble sur Christian Lopez qui lui chippe le ballon. Saint-Étienne contre à toute vitesse, par l'intermédiaire de Piazza, et au bout de l'action, Hervé Revelli fusille Rudakov, le gardien soviétique, 1-0. Moins de 10 minutes plus tard, Larquet clinque un coup franc magistral, puissant et ajusté au millimètre, 2-0.
C'est sûrement Jean-Michel Larquet qui va frapper cette balle. En tout cas pour l'instant, vous l'avez vu, un tir extraordinaire qui a percé le mur soviétique et Rudakov n'a rien pu sur cette affaire. Il y avait eu deux miracles à Saint-Étienne et il y en a maintenant, en tout cas momentanément, un troisième. Regardez l'action, un tir extraordinaire alors que les soviétiques ont voulu s'écarter.
On joue les prolongations, les mollets sont douloureux. Santini cède d'ailleurs sa place, Rocheteau joue avec des crampes. C'est ce même Rocheteau pourtant qui, à la 112e minute, d'un plat du pied, trompe Rudakov et offre la qualification à Saint-Étienne, 3-0 contre le Dynamo Kiev. Énorme performance des Verts qui suscite tous les espoirs. Espoir confirmé en demi-finale contre les Hollandais du PSV Eindhoven que Saint-Étienne élimine sur la plus petite des marges, 1-0 sur l'ensemble des deux matchs. Pour la première fois depuis le grand stade de Reims, un club français va jouer la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Saint-Étienne affrontera le Bayern Munich et endosse le statut d'outsider face aux favoris bavarois. C'est là que la France devient entièrement verte. La France entière pousse derrière ses verts. Champion de France en titre, liseré tricolore sur le col, avec des joueurs originaires des quatre coins du pays. Rocheteau du Grand Ouest, Janvion de la Martinique, Sina Hegel, le ch'ti du Nord, les frères Revelli de l'Est ou le Pez, le pied noir d'origine espagnole. Opposition de style aussi, avec un Bayern sûr de son football et de sa réussite économique, celle de la toute-puissance bavière, contre Saint-Étienne, ville ouvrière époussée par un public bouillant. La finale se joue à Lambden Park de Glasgow le 12 mai 1976. Saint-Étienne est privé de son attaquant vedette, Dominique Rocheteau blessé, remplacé par le gaucher Christian Saramagna, poussé dans ses retranchements par Robert Herbin, entraîneur très exigeant. La finale est pour ainsi dire à sens unique. Saint-Étienne n'ayant, comme on dit, rien à perdre, pousse durant tout le match. Les occasions se multiplient, mais les attaques stéphanoises butent sur Sepp Maier, l'excellent gardien allemand. quand elle ne bute pas à deux reprises sur les poteaux carrés. Ah, ces fameux poteaux carrés de Glasgow. Une singularité de ce football des années 70, où un stade de première classe comme celui de Glasgow était encore pourvu de poteaux en bois à section carrée. Vous sentez venir la suite. À la 70e minute, le Bayern obtient un coup franc anodin mais bien placé après une faute d'Osvaldo Piazza sur Gerd Müller. C'est le milieu de terrain Franz Roth qui le tire et envoie une frappe lourde à ras de terre, trop loin du bout des gants de Kurkovic. Le Bayern ouvre le score, puis tient bon, jusqu'au coup de sifflet final. Pour la troisième année consécutive, la Coupe d'Europe des clubs champions file à Munich. Saint-Etienne est défait, mais la presse française, comme européenne, salue la performance des Verts qui auraient mérité la victoire. Le journal espagnol Marca titrera « Ce n'est pas le meilleur qui a gagné ». Et oui, car les plus forts, évidemment, c'est les Verts. On écoute ce titre enregistré justement en 76 par le chanteur yéyé Jacques Monti et devenu emblématique de l'épopée des Verts. Dans la troisième et dernière partie, on abordera l'aspect culturel et tout ce qui entoure ce romantisme des Verts de Saint-Étienne.
Avant de rentrer, pour commencer à nous échauffer, tous en cœur nous chantons.
On se retrouve pour cette dernière partie de ce Tsigalco United consacré à l'épopée des Verts. On va aborder l'impact culturel de la grande époque des Verts sur le foot français et sur la société française elle-même. D'abord, on a parlé de la finale de 76 à Glasgow, perdue contre le Bayern Munich. À l'issue de cette finale perdue, les joueurs de Saint-Étienne effectuent le lendemain une descente des Champs-Élysées assailli par les supporters parisiens des Verts. En 1976, le PSG n'est encore qu'un tout nouveau club qui n'a rien prouvé au plus haut niveau, et les autres clubs parisiens, le Red Star et le Racing Club, sont en deuxième division. Les Verts sont donc très populaires à Paris. Les joueurs descendent les Champs-Élysées et paradent à Paris, où ils sont aussi reçus par Valéry Giscard d'Estaing, président de la République. En fait, pour qui ignore tout du foot et du résultat du match, on pourrait croire que Saint-Étienne est champion d'Europe. Pourtant, on célèbre en grande pompe un vaincu. C'est tout le paradoxe du foot français de l'époque. D'une époque où le foot français n'a pas encore gagné la Ligue des Champions, il faudra attendre Marseille en 93, ni la Coupe du Monde de foot, ça vient en 98. On célèbre alors les perdants magnifiques, les héros malchanceux, les courageux, les romantiques. Un peu comme on célèbre à la même époque Raymond Poulidor, jamais vainqueur du Tour, mais véritable icône populaire du cyclisme français. C'est que la finale de Glasgow devient très vite la finale des poteaux carrés, où une frappe de Battenet et une tête de Santini, qui tapent les poteaux carrés et en bois de Lambden Park de Glasgow, deviennent les éléments déterminants qui auraient pu faire basculer le match. Et s'ils avaient été ronds, ces poteaux, peut-être que le ballon serait rentré. On peut aussi aujourd'hui se poser la question de pourquoi Saint-Étienne n'a pas réussi à marquer, alors que oui, incontestablement, les occasions lors de la finale sont stéphanoises, mais quand on domine autant, il faut marquer. Saint-Étienne construit sa légende sur cette finale malchanceuse, mais marque au fer rouge, ou plutôt au fer vert, toute une génération. À l'occasion du festival Terre du Son, au mois de juillet, à Mont, j'ai rencontré sur le plateau de Radio Campus un jeune sexagénaire passionné de foot. À l'évocation de l'épopée des Verts lors d'une discussion, son regard brille. Voici donc le témoignage de Dominique, adolescent lors de la grande époque des Verts. Et je suis avec Dominique qui a tout juste 60 ans. En 76, il était jeune apprenti footballeur au FC Tours. Dominique, est-ce que tu gardes un souvenir assez marquant de l'épopée des Verts en 1976?
Ah oui, je marque. Oui, c'est une époque absolument fabuleuse. Moi, ça m'a beaucoup inspiré à travers des joueurs comme Lopez, qui était en numéro 4, par exemple. Moi, j'ai fait le poste de libéraux, mais bon, on va pas parler de moi. C'est surtout que ça a amené une ferveur et une identité footballistique hyper importante dans tous les clubs, et notamment, et c'est tout, on était tous les jeunes dont on était. Chacun un joueur attitré où on essayait de faire à peu près la même technique.
Et
c'était super.
Et les grands matchs européens de la Saint-Etienne, est-ce que tu les regardais à la télévision ou tu les écoutais à la radio?
Je regardais la télévision, j'avais la chance d'avoir une télé. C'était quand même beaucoup plus intéressant puisque, étant footballeur, je pouvais voir, examiner directement les techniques et essayer de refaire après l'entraînement. Des choses qu'on n'arrivait pas à refaire, mais c'était en tout cas l'envie qu'on avait, c'était de ressembler à ces joueurs.
Et tu sais que Saint-Etienne est un des premiers clubs voilà, à générer beaucoup de choses. En dehors du football, il y avait des disques de musique, il y avait du merchandising, des produits dérivés. Si je te dis qui c'est les plus forts, c'est...
C'est les Verts, évidemment.
Et la finale de Glasgow, cette fameuse finale dont on parle toujours des poteaux carrés, le fait que l'AS Saint-Etienne descende les Champs-Élysées après avoir perdu la finale, est-ce que ça aussi c'est un souvenir marquant, le fait qu'ils aient perdu finalement, est-ce que vous, quand vous en discutiez, ça les faisait rentrer un peu plus dans la légende?
Ah ben complètement, c'était des héros, c'est comme s'ils avaient été volés à cause des poteaux carrés quoi. Donc non, c'était vraiment un symbole incroyable. C'était toujours une ferveur, même s'ils avaient perdu, pour lui, c'était le meilleur.
Et puis, on peut pas ne pas faire ce petit jeu. L'équipe de 76 a respecté, parce qu'on est tous capables, en tout cas les amoureux de ballon, de citer quelques-uns des plus grands joueurs de cette équipe. Si je te demande de citer quelques noms de cette équipe, quels joueurs ont retenu et retiennent encore ton attention?
Alors tout à l'heure j'ai parlé de Lopez qui était en numéro 4, évidemment il m'a vraiment marqué énormément. Il y avait Dominique Rocheteau, ça c'était une évidence, ça n'avait pas loupé. Après il y avait Santini, et puis de mémoire, le gardien, on ne se souvient plus.
Kurkovic.
Kurkovic qui était absolument incroyable. Et puis tous les autres évidemment. Et l'entraîneur, dont je ne me souviens plus non d'ailleurs de l'entraîneur.
Robert Herbin.
Trop fort. Ah. C'est ça, Robert Herbin.
Alors après Saint-Etienne, et à la fin des années 80, voilà, est rentré dans le rang et devenu un club, on va dire, de milieu de tableau, un club qui a connu voilà, des déboires sportifs. Est-ce que malgré tout, quand on a été supporter de Saint-Etienne, un jour, on le reste un peu toujours, est-ce qu'on garde toujours un œil, est-ce qu'on a un petit peu de nostalgie quand on voit des fois la Saint-Etienne revenir en division 1 et obtenir de bons résultats?
Alors, oui, j'étais supporter, pas fan, parce que j'étais pas de la région, mais j'étais supporter, et oui, effectivement, on a toujours cette envie, même si on voit les Verts aujourd'hui, ça reste quand même le même niveau. Il y a toujours cette identité du maillot, et puis de se faire évoquer de l'ordre.
Merci.
Comme Dominique, beaucoup d'amoureux du foot d'alors vont retenir les noms des joueurs qui composent cette équipe de 76 et qui vont devenir les grands verts de Saint-Étienne. Alors, après cette finale perdue, Saint-Étienne reste encore au sommet. L'année suivante, en 77, Saint-Étienne sort en quart de finale de la Coupe d'Europe, éliminé par Liverpool, futur vainqueur de l'épreuve au terme de matchs disputés. Et puis Saint-Étienne mute un peu, et devenu géant parmi les clubs français, recrute à prix d'or des stars du ballon rond, comme l'ailier hollandais Johnny Rep ou le numéro 10 de l'AS Nancy, Michel Platini. Dernier chef-d'œuvre stéphanois au niveau européen, un huitième de finale de Coupe de l'UEFA au mois de décembre 1980 contre Hambourg. Hambourg est alors une grande équipe du foot allemand, emmenée par Manfred Kaltz ou le solide attaquant Horst Rubesch. Victoire de Saint-Étienne à Hambourg 5-0, doublé de Platini, des buts de Larios et Zimaco, d'autres joueurs internationaux français. Malheureusement, en quart, ce sont les surprenants anglais de Ipswich qui éliminent avec un score sévère Saint-Étienne, victoire 3-1 et 4-1. Ipswich remporte d'ailleurs cette édition de la Coupe UEFA, à croire que les Verts ne tombent que sur les futurs vainqueurs des compétitions. Le chant du cygne arrive en 82. Saint-Étienne perd la finale de la Coupe de France au Parc contre le PSG, appelé à devenir le club numéro 1 de la capitale. Cette même année 82 éclate l'affaire dite de la caisse noire de Saint-Étienne. Une affaire qui implique le président Roger Rocher dans une affaire assez classique dans le football de double trésorerie et de fraude fiscale. Saint-Étienne est alors pris dans les affres de la justice et des scandales. Le club explose, la masse salariale est drastiquement diminuée et fatalement, au milieu des années 80, Saint-Étienne descend en deuxième division. Saint-Étienne connaîtra depuis plusieurs promotions en Ligue 1, des belles saisons même, et de nouvelles participations somme toute timides dans les compétitions européennes dans les années 2000 ou 2010, avant de redevenir un club pris dans le mécanisme de l'ascenseur entre Ligue 1 et Ligue 2 dans les années 2020. Toutefois, les Verts sont toujours le club qui rassemble le plus de supporters en Ligue 2, et lorsqu'ils sont en Ligue 1, ils attirent encore davantage. Ce côté charismatique du club stéphanois tient à plusieurs choses. Déjà, lorsque le club connaît sa période de gloire en 76 et durant toute la décennie 70, la ville de Saint-Étienne est en mutation. Les industries lourdes et minières subissent de plein fouet le choc pétrolier et la désindustrialisation que connaît la France. La ville est marquée par les mobilisations sociales, les grèves et des conditions de vie parfois rudes. Les joueurs de Saint-Étienne, bien que grassement payés, n'ignorent pas qu'ils jouent pour des supporters qui sacrifient beaucoup pour venir au stade. Porter le maillot vert est alors plus qu'un engagement sportif, c'est devenir le porte-étendard d'un peuple qu'on va appeler le peuple vert, et qui est surtout un public fervent et qui attend beaucoup de ses joueurs. L'empreinte industrielle, elle figurera aussi sur le maillot, avec le mythique sponsor Manu France, nom d'une grande entreprise stéphanoise qui faisait de la vente par correspondance de matériel de jardinage, de matériel de chasse et de quincaillerie. Grand employeur de la ville, la marque subit de plein fouet la crise de la fin des années 70 et sera liquidée dans les années 80 par Bernard Tapie. Le nom Manu France, en blanc sur les maillots verts de Saint-Étienne, est indissociable de l'épopée des Verts. Indissociable aussi le nom de Dominique Rocheteau, surnommé l'Ange Vert, et pour qui le chanteur Jacques Monti fera une chanson intitulée « Le Petit Rocheteau ». Osvaldo Piazza aussi a droit à sa chanson « Mon copain l'Argentin » par Bernard Sova. Et puisqu'on est au rayon musique, le chanteur et aventurier stéphanois Bernard Lavillier ne cessera jamais de clamer son amour pour le club de l'AS Saint-Étienne et plus largement pour la ville et son image ouvrière. Mickey 3D aussi, qui conclura cette émission, groupe de rock français qui ne cachera jamais son amour du club, un peu à contre-courant d'une certaine pensance dans le milieu musical et culturel français qui veut que le foot soit un peu vulgaire, voire un peu ringard. Mickey 3D ne s'est jamais départi de son supporterisme des Verts. Le club génère un engouement tel qu'il n'échappe pas non plus à la sphère politique. Les deux maires qui vont se succéder à Saint-Étienne durant les belles années, Michel Durafour, centriste, puis Joseph Sanguedols, communiste, suivent avec attention les rencontres des Verts et assistent au match au stade Geoffroy Guichard. À la fin des années 70, on verra aussi Georges Marchais, premier secrétaire du PCF, venir au stade et emmener François Mitterrand lors d'une rencontre de Coupe d'Europe perdue contre Mönchengladbach. Encore aujourd'hui, les classements et votes qui sont faits sur la ferveur en tribune placent généralement l'AS Saint-Étienne parmi les meilleurs publics de France. C'est aussi sans doute parce que c'est tout ça les Verts, un club et une équipe de foot qui a impacté la culture foot et culture sportive du pays, a inspiré des artistes et mobilisé des supporters partout en France. En 1982, lors de la demi-finale des Bleus à la Coupe du Monde, puis en 1984, lors du premier Euro remporté par la France à domicile, des joueurs comme Platini, Lopez ou Rocheteau citeront l'AS Saint-Étienne comme ayant été la principale source d'inspiration, ou, disons, le fer de lance de ce foot tricolore qui peut gagner. On va se quitter par un titre de Mickey 3D, Johnny Rep, chanson hommage à l'ailier hollandais et ses cheveux blonds et son look rock'n'roll. Johnny Rep, qui fera partie de la dernière grande équipe des Verts fin des années 70, début 80. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission de Sigalco United autour du foot, histoire, culture et épopée. Retrouvez aussi la programmation spéciale semaine 99.green sur notre site radiocampustour.com. Et puis, allez les Verts!
Ce soir, c'est le tout premier match de la saison. Et Johnny Rep a les cheveux blonds. 45 000 personnes se tassent dans le chaudron. Et Johnny Rep enlève son pantalon. Un ange qui passe dans les vestiaires. Johnny Rep enfile son maillot vert. Ce soir, la lune escorte les champions. Et Johnny Rep affûte ses crampons. Ce soir, la foule n'en peut plus de chanter. Et Johnny Rep évite les croche-pieds. Ce soir, c'est sûr, on va voir trembler les filets. Et Johnny Rep n'en peut plus de dribbler. Ce soir, on joue à la maison. Et Johnny Rep demande le ballon. Ce soir, la pluie trempe les blousons. Mais Johnny Rep a marqué, c'est bon.
Saint-Etienne, Saint-Etienne qui mène déjà 2-0, deux buts de Johnny Rep. Johnny Rep réussit d'ailleurs l'un des premiers doublés. Johnny Rep qui récupère le ballon en position d'arrière droit. Un Johnny Rep extrêmement défensif. Il laisse le ballon en retrait à Christian Lopez. Christian Lopez qui remet en retrait à Jean Castaneda. Castaneda qui relance immédiatement pour Gérard Janvion. Janvion qui change complètement de côté, qui donne à Gérard Farizon. Gérard Farizon à destination de Jacques Santini. Santini à Michel Platini. Michel Platini en profondeur pour Johnny Rep. Johnny Rep seul devant le gardien au point de pénalty. Et Johnny Rep qui marque le troisième but de l'équipe de Saint-Étienne. Il reste 8 minutes à jouer. L'équipe de